Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Des hommes violents, c'est l'histoire d'un jeune homme de 30 ans, Mathieu Palin, qui prend conscience à sa façon du mouvement MeToo et du renouveau féministe apparu en France ces dernières années. Il part de loin, comme il dit, niveau féminisme, il est encore en maternelle. Mais il décide de regarder sur le pas de sa porte, si on peut dire, et de se pencher sur le cas des hommes violents. Il s'intéresse particulièrement à une douzaine d'hommes condamnés pour violence conjugale et contraints par la justice à participer à un groupe de parole. Ils sont censés y réfléchir à ce qu'ils ont fait, aux causes de leur comportement, aux moyens de ne plus recommencer. Et c'est peu de dire qu'il y a du boulot. C'est le 4e épisode tout de suite de cette série, entièrement disponible en podcast si vous avez manqué le début ou si vous voulez écouter directement la suite. Aujourd'hui, on fait connaissance avec Kader, on continue avec Asdine et les autres du groupe qui se serrent les coudes et on finit avec une histoire bien plus tragique que toutes les autres. On prolongera utilement l'écoute de cet épisode avec la lecture d'un livre que j'ai déjà cité qui s'appelle « La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe » par le politologue Francis Dupuy-Déry. On peut aussi l'entendre au micro de Victoire Thuaillon dans son podcast « Les couilles sur la table » et à celui de Julie Gacon dans un débat dont vous trouverez le lien sur notre page. Une des idées, je la mentionne, qu'il déconstruit brillamment, c'est celle selon laquelle il y aurait une symétrie de responsabilité dans la violence conjugale. Le genre de phrase qu'on entend souvent comme « les mots font parfois plus mal que les coups ». Dupuy-Déry donne l'exemple de ce best-seller « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » où on peut lire, je cite, « qu'une femme a le pouvoir de démolir son partenaire d'une simple inflexion de la voix ». En somme, les femmes exerceraient une agressivité psychologique telle qu'elle pourrait elle aussi causer la mort, c'est-à-dire le suicide de ces hommes poussés à bout, détruits par ces violences verbales, véritable torture. Clairement, conclut l'auteur de ce livre, ce n'est juste pas vrai. Dans l'immense majorité, les hommes qui se suicident ne sont pas ceux qui s'inscrivent dans la masculinité hétérosexuelle traditionnelle, mais bien davantage les hommes homosexuels, bisexuels ou transgenres. Non, les mots ne font pas aussi mal que les coups, ça se saurait. Dans l'épisode d'aujourd'hui, les animatrices introduisent encore une autre notion que je vous laisse découvrir et apprécier avec l'histoire de Kader, c'est la notion de pathologie du lien. Tout de suite donc, après cette parenthèse, nous voici quelques semaines après le début de ce stage un peu particulier où en sont ces 12 hommes, Mathieu Palin et Cécile Lafont.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
C'est Laurence Zobel, là, vous faites quoi? Vous êtes là, mais vous êtes là où? Ah, vous êtes en bas, vous arrivez. Ok. Bon, ben, on vous attend pour commencer dans 2 minutes, hein. Vous prenez l'ascenseur? Ok. Ok, à tout de suite.
Les séances s'enchaînaient, et à part Franck qui continuait de livrer ses pensées sans filtre, le groupe s'était figé dans une routine.
Ma femme, elle va aller avec plusieurs hommes.
Les plus à l'aise à l'oral monopolisent le débat pour rabâcher que les femmes ont pris le pouvoir.
Est-ce que vous vous en souvenez de ce qu'on a travaillé les uns les autres?
Les timides restent dans l'ombre, en attendant que ça passe.
Je me rappelle pas de la dernière fois.
Plus que 7 séances, plus que 6.
Bien.
Plus que 5.
À dans 15 jours.
Je commençais à me dire que ça allait se finir comme ça. Et puis un matin, avant de rejoindre le groupe, Christine, la référente de Kader, un des plus taiseux, m'a dit quelque chose qui m'a surpris.
C'est pas si simple, que souvent on a des idées un petit peu, des préjugés, hein, je veux dire qu'on a un homme autoritaire, une femme soumise, souvent on se rend compte que c'est plus complexe et que parfois on a des hommes souvent qui ont du mal à s'exprimer, qui sont plutôt inhibés, avec des femmes qui peuvent aussi être très insistantes, elles-mêmes être instables émotionnellement, et donc tout ça, ça génère de la violence. Et donc c'est vraiment sur la relation du couple qu'il faut travailler, sur la relation à l'autre qu'il faut travailler. Mmh. Voilà. En évitant d'être manichéen, en disant il y a le gentil, il y a le méchant, ou en tout cas il y a... Alors il y a le coupable au nom de la loi, oui, mais en tout cas ce qui génère la violence, c'est souvent la pathologie du lien, en fait.
C'est la première fois que j'entendais parler de ça, la pathologie du lien. Ce que décrivait Christine ressemblait beaucoup à des excuses de mecs violents. Mais selon elle, pour Kader, c'était différent.
Moi, au départ, je me suis dit, c'est pas le profil du violent conjugal. On a du mal à l'imaginer dans ces, dans ses débordements. Il y a une reconnaissance de sa violence, mais il y a aussi, la place de la victime en tant que personne qui avait, c'est comme ça qu'il le vit en tout cas, vraiment de l'emprise sur lui. Et que lui, il était très attaché à elle et qu'elle était, elle était presque une adversaire, quoi. Il me disait, il faut que je fasse attention, je sais que je peux rechuter. Si je la revois, si je reprends contact avec elle, je sais que je vais à nouveau craquer. Voilà, donc et quand ils sont ensemble, oui, j'ai l'impression qu'il y avait peut-être une forme d'emprise. Peut-être, en tout cas, lui, il le vivait plutôt comme de sa part à elle, quoi.
Mais c'est elle qui a porté plainte.
Oui, c'est elle qui a porté plainte, tout à fait. Et je pense que les violences... Ce qu'il faut qu'il il apprenne à travailler, c'est... Enfin, je pense... Tant qu'il ne sera pas en couple, en fait, difficulté, c'est quand il sera à nouveau dans une histoire de couple. Il faut qu'il apprenne à gérer les choses différemment. Et puis, voir aussi comment, aujourd'hui, il est par rapport à la victime. Il a une interdiction, hein, comme souvent, hein, une interdiction d'entrer en relation.
Et du coup,
je crois qu'il avait quand même des sentiments très forts pour cette femme.
Kader est resté silencieux pendant des semaines. Il était là, à observer les autres, dans son blouson de cuir noir fermé jusqu'au col. Et tout ce que je savais de lui, c'est qu'il était né en Algérie. Que sa femme était marocaine et que son fils de 17 ans, un crack en mathématiques, visait une mention au bac scientifique.
Bah, je l'ai rencontré dans un bar.
Et puis juste avant Noël, le 21 décembre, alors qu'on s'y attendait plus...
Le jour lendemain, on s'est mis ensemble.
Kader s'est raclé la gorge et a déroulé son histoire.
T'as dit pris un mauvais choix, je pense. Hein.
Une histoire d'amour empoisonné.
Et j'ai vu l'enfer. L'enfer. Vraiment l'enfer. Comme je disais tout à l'heure à Franck, j'ai 3 enfants avec elle. Ils habitent à 5 minutes de chez moi, ça fait 3 ans que je ne les ai pas vus. Et cette femme, elle m'a pourri, mais vraiment à fond.
Tu nous as dit qu'elle avait divorcé pour se mettre avec toi. Oui. Et après, elle te pourrit la vie. Il y a quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête, à cette dame.
Mais vous avez fait 3 enfants ensemble.
En plus, ils font 3 enfants ensemble. Donc, je suppose que ça a duré quand même un certain temps pour faire les 3 enfants.
Non. J'étais la première. Au bout de 9 mois, je suis rentré en prison. Quand j'étais en prison, elle est tombée enceinte. Je suis sorti de la prison, on a fait le 3e. Ça fait que la 2e, je la connaissais pas. Je n'ai pas vécu avec la 2e fille.
Mais elle était enceinte quand vous êtes allé en prison.
Oui.
C'est ça ?
Ouais.
De vous ?
Oui.
D'accord. Et vous êtes allé en prison cette première fois, pourquoi ?
C'était pour elle.
D'accord. Et donc quand vous sortez, vous vous remettez avec elle ?
Exact. Toute la période de prison que j'ai passée en prison, elle n'a jamais raté un parloir. Mais jamais, hein. Qui pleut, qui neige, qui fait beau, qui fait pas beau, elle a jamais raté un parloir, hein. Pendant 2 ans. Et même le psychiatre, tout le monde en prison, ils me disent, il faut pas que tu retournes avec cette femme. Mais elle a jamais raté un parloir.
Donc vous sortez, vous, et vous décidez de retourner avec elle.
Et dans ma tête, j'ai dit, bon, bah, c'est bon, peut-être elle a fait une erreur, c'est pas grave, je la pardonne.
Une fois que tu es sorti, après ?
Hein ?
Et une fois que tu es sorti, après ?
Après, quand je suis sorti, je suis resté avec elle 6 mois, peut-être.
Et après, pourquoi tu...
Ça, on s'est rediscuté et je suis reparti.
Vous avez disputé sur quoi,
C'est surtout l'argent. Pourtant, je gagne bien ma vie. Quand je l'ai connue, j'avais un garage. Mm-hmm. Et dans mon garage, je réparais que des Ford, Porsche, des Mercedes, des 4x4 Mercedes. Mais c'est un truc de fou.
Et maintenant, elle fait quoi?
Ça fait 3 ans que je n'ai pas de nouvelles. Je veux rien savoir. Pour pas voir elle... Je me prive de voir mes enfants. Voilà. Tellement j'ai pas envie de sentir son odeur dans mes enfants, je veux rien. Et pourtant, j'envoie tous les mois, j'envoie 300 euros à mes enfants. Tous les mois. Et toutes les preuves.
C'est bien d'envoyer des sous.
Bah, oui, c'est
ce que je préférerais, voilà. Un bisou.
Je sais, c'est pour ça que je dis, j'ai pas envie de parler parce que, ça me fait. Voilà. Je suis contre le divorce et le... Mais une fois qu'on a des enfants, c'est fini. Avec mes parents, c'était la galère. Hein. 20 ans avec mes parents, c'était l'enfer parce qu'ils se disputaient tout le temps, ils voulaient divorcer. C'était un truc de fou. Et je me rappelle, j'étais gamin et je faisais tout pour pas qu'ils divorcent. Moi, jusqu'à où... Je me rappelle, mes parents, c'est là où ils sont arrêtés, qu'il n'y a plus de problème. Je leur ai dit, écoutez, je vais aller à la falaise. On n'est pas loin de la falaise. Je dis, je vais me jeter de là-bas. Allez, dites-moi que vous allez divorcer et ciao. C'est pour ça, quand elle me dit, voilà, j'ai passé 2 ans en prison et je suis retourné quand même avec elle. Parce que dans ma tête, j'ai dit, bon, bah, elle a reconnu ses erreurs. C'est bon, c'est pas grave, c'est pardonné, il n'y a pas de problème. Et je suis retourné avec elle, on a fait un troisième enfant et toujours rebelote. Pareil. C'était tout le temps, c'est des galères. À chaque fois, au commissariat, à chaque fois, des plaintes, à chaque fois ci, à chaque fois ça.
Avant la prison, il y a eu quand même plusieurs plaintes avant.
Oui, je vais vous dire pourquoi elle a porté plainte contre moi. Elle a cassé tout à la maison. Tout, hein, toute la vaisselle, elle a cassé tout, tout ce qui était sur les meubles, elle a tout cassé par terre, hein, c'était tout par terre, on n'avait qu'une seule fille. Et à un moment donné, elle a pris la fille, elle m'a dit, je te jure, je vais la jeter par la fenêtre. On habitait au deuxième étage. Je dis, non, mais c'est bon, ça fait, c'est bon, ça, j'arrête, on arrête, on va se calmer, je vais sortir. Qu'est-ce que je fais? Je prends la petite et je me barre. Je vais dormir chez un copain. Au moment de partir, elle s'est accrochée à la portière. Et elle est tombée par terre, les voisins ils ont appelé les pompiers et tout, ils ont dit, voilà, elle s'est blessée sur les genoux et tout. Et ils m'ont dit, c'est une violence, c'est de la violence. J'ai fait venir ma fille qui a 6 ans pour témoigner. Et la commissaire au commissariat, elle m'a dit, t'as fait n'importe quoi parce que ta fille, elle va témoigner contre toi. Sa mère, elle lui a déjà remonté la tête à la maison. Et c'était la vérité.
Qu'est-ce que vous en pensez les autres?
Voilà. Et je suis libre de parler. Il n'y a personne qui me met le couteau dans la gorge ou c'est pas par fierté ou quoi que ce soit, mais vraiment pas du tout.
Vous en voulez à votre fille d'avoir témoigné?
Ah, pas du tout. Pas du tout. À la fin, ma fille, avant de partir, elle a demandé à sa mère pour qu'elle me voie avant de partir de commissariat. Et la commissaire, elle m'a dit, il y a ta fille qui veut te voir. Mm-hmm. Qu'elle veut t'embrasser. Et je l'ai embrassée, il n'y a pas de problème, ma fille. Mais vraiment pas du tout, elle est pour rien.
Mais pourquoi s'en est arrivé là dans votre couple?
Je n'étais pas d'accord avec sa soeur, ses nièces et tout ça. Elle venait chez moi, ses nièces, elle venait chez moi pour filmer du shit. Elle faisait la fête comme avant, parce que avant que je la rencontre, c'était comme ça. Quand on était en couple, tête à tête, on s'en foutait. On filmait ensemble à la maison, on buvait et tout. Une fois qu'on a eu la petite, j'ai dit, écoute, voilà, c'est plus pareil. On a la petite à la maison, je ne veux plus avoir ça. Et je n'ai jamais accepté ça.
Elle, qu'est-ce qu'elle
t'approchait? Je suis un macho. C'est-à-dire, ses sœurs, quand ils viennent chez moi pour faire la loi et tout ça, j'acceptais pas et je les mettais à la porte.
Là, je me suis dit, c'est bon. Enfin, on touche le cœur du sujet. Comment la violence s'installe dans un couple qui s'aime? Et une fois qu'elle est là, bien nichée dans le foyer, comment s'en débarrasser? Kader pense qu'en vivant seul, il s'empêche de péter les plombs. C'est ce qu'il fait depuis 3 ans qu'il est sorti de prison. Loin des yeux, loin du cœur, loin des coups.
Moi, la vérité, c'est la seule solution que je vis là actuellement.
Aujourd'hui, je ne peux plus vous engager dans une relation.
Ah, jamais fini. Mais non. Faire des victimes.
Je
ne m'engage plus. Bah oui. Je sais que ce n'est pas une vie. Je le ressens. Hein. Je le ressens que ce n'est pas une vie. J'aurais préféré aimer d'être avec une femme à la maison, tranquille, on partage. Elle m'aide, je l'aide. Voilà. Je veux ça. Mais vu que ce que j'ai vécu. Mais j'ai pas envie, mais la vérité, j'ai pas envie.
Et le problème, ouais. C'est la prochaine compagne est au courant de nos histoires précédentes.
C'est pas écrit ici qu'elles sont tous pareilles.
Non, j'ai pas dit ça.
On peut pas le savoir.
Mais un jour de conflit bah oui. Profond,
peut-être moi
d'engueulade.
Aussi, peut-être moi, c'est moi aussi le méchant.
Ouais.
Oui,
oui. Y a mais comment on peut le savoir?
À partir de là, Kader est sorti de son silence. Il a ouvert son blouson. L'a posé sur sa chaise et s'est mis à participer. À force, il s'est même permis de critiquer les plus sexistes, comme Asdine Baya.
De ma femme, elle a rien à faire en boîte. C'est pas concevable.
Exactement.
Et qu'on disait que dans un couple, c'est rien à voir, ça n'a rien à faire là, un ami. Une femme, elle a des potes femmes, un homme, il a des potes hommes. Par exemple, moi, je deviendrais fou si ma femme, elle a un meilleur ami, et elle va aller se confier à lui au lieu de se confier à moi, ou... Elle n'a pas à avoir. Le seul homme qu'elle a, c'est son mari.
Ça
elle n'a pas à avoir d'autre.
Jalousie.
Ouais, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer plein de choses.
D'accord. Et vous étiez d'accord aussi?
Ah oui, je suis d'accord, 1000%.
Ouais.
Ces messieurs-là, ils ne sont pas intégrés encore dans la société.
Qui c'est qui n'est pas intégré? Asdine Baya. Vous trouvez qu'ils font l'affaire?
Ben non, ils ne vont plus jamais faire l'affaire ici. Là.
Ils font quoi?
Ils sont pas intégrés encore.
Ah,
il faut les sauver.
Il faut sauver Asdine Baya, la mission du coup.
Bienvenue en France.
Tu donnes trop liberté, c'est pas bon. Franchement, trop liberté, c'est pas bon. C'est pas homme pour moi.
C'est pas la question d'être homme, c'est la société. C'est la société.
Oui.
Voilà. Toi, t'as des trucs que tu fais que ta femme, elle aime pas. mais tu te rends pas compte, peut-être elle n'ose pas te le dire.
Kader s'est détendu petit à petit, jusqu'à devenir un allié des animatrices. À la veille de la dernière réunion, je l'ai croisé dans un bar du centre-ville de Lyon. Il buvait un verre avec des amis. On s'est assis sur un banc à l'écart, et il m'a avoué qu'en fait, il était super content d'être dans ce stage.
Franchement, le groupe de parole, c'est un truc magnifique, que normalement, ça devrait être imposé. Enfin, pas imposé, mais conseillé pour les gens qui...
Et toi, ça t'a permis de progresser, toi ? Tu as l'impression, personnellement ?
Avancer, on va dire, oui. Parce que réfléchir, à chaque fois où tu fais quelque chose, tu vas réfléchir. Ce qu'on avait dit, voilà, c'est pas bien. Tu vois, c'est surtout le plus important, c'est de pas imposer à l'autre de faire ce que tu penses. La faute, c'était en moi. C'était moi le fautif. C'était de ma faute. Parce que j'avais la même mentalité que Asdine et l'autre. La femme, c'est la femme et tout. Et j'imposais, j'obligeais, tout ça. Et c'était pas ça. Comme les gens, ils disent, voilà, c'est son droit. On ne se met pas en couple pour obliger, pour imposer. Et dire, voilà, c'est son choix, j'accepte. Et c'est tout.
À ce moment-là, Kader a enchaîné, mine de rien, en me disant qu'il avait revu sa femme.
Et là, ça fait 20 jours que je me suis remis avec elle. Pas officiellement, hein. Il y a 15 jours, elle est venue, elle et les enfants, ils sont venus dormir chez moi.
Mais et comment ça s'est passé ?
Bah, on a passé une bonne soirée. Je leur ai fait une paella.
Mais les enfants, ça faisait 3 ans que tu les avais pas vus.
Ouais, ouais.
Et là, 3 tu ans. Les as revus.
Ouais. J'avais pas trop de sentiments pour les enfants et pour elle. C'est pas que j'ai oublié, mais tellement j'ai eu mal avec cette femme qu'elle m'a fait trop de mal. Je voulais couper le cordon avec elle. Il y a à peu près 20 jours, sur Internet, elle a vu, je sais pas qu'est-ce qu'elle a vu, je sais pas, elle m'a contacté. Ouais. Je me suis dit, écoute, voilà, ça reprend comme ça.
Et du coup, vous êtes revus ?
Oui, mais ils ont dormi chez moi, il y a à peu près 15 jours. Ils ont passé le week-end chez moi. Mais là, avant qu'elle part au Maroc, elle m'a dit, j'aimerais bien quand je reviens du Maroc, qu'on se met à la table et on va discuter et tout. Mais moi, j'avais pas tout ça dans ma tête. Hein. Voilà, moi, j'avais pas tout ça dans ma tête. Hein. De discuter ou se remettre ensemble ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a rien dans ma tête pour dire, voilà, je vais retourner avec elle ou quoi que ce soit.
Donc là, t'es pas sûr ?
Peut-être, c'est possible.
Et t'es amoureux d'elle, tu penses ?
Je la déteste pas. Enfin, c'est la mère de mes enfants.
Je dirais pas que tu es amoureux d'elle.
Je dirais pas que je suis amoureux d'elle, non. À chaque fois, quand il y a des problèmes, c'est là où je la supporte plus.
Et t'as pas peur que ça recommence ?
Si.
Si.
Bah oui. Mais là, je sais pas. Ouais. Bon. Allez, on va prendre un dernier verre.
J'ai bu un dernier verre avec Kader et je suis rentré à l'hôtel. En traversant la ville cette nuit-là, j'ai réalisé qu'il s'était déjà passé plusieurs mois. Qu'est-ce que j'avais fait tout ce temps ? Je m'étais rapproché de ces hommes, j'avais écouté leurs histoires d'amour ratées, j'avais ri à leurs blagues, bu des bières avec eux. J'étais venu pour me confronter aux violences faites aux femmes et je passais mon temps à nager dans un flou étrange. Les conjointes étaient démoniaques et muettes, les violences abstraites, les coups invisibles. En rentrant à Paris, j'ai soudain été ramené à la réalité. Une phrase, lettre noire sur fond blanc, était collée sur un mur à la sortie du métro. Une femme va être tuée dans 48 heures. En arrivant au pied de mon immeuble, une deuxième phrase. Honorons les mortes, protégeons les vivantes. À l'origine de cette campagne de collage, c'est une ex-fémène qui met des prénoms derrière le chiffre de 130 femmes mortes chaque année en France sous les coups de leur conjoint. Hélène, assassinée par son ex le 22 mars, elle nous manque. Mariette, battue puis étranglée par son mec. 60e féminicide. J'ai eu envie de rencontrer Sandrine Boucher, qui préside l'Union Nationale des Familles de Féminicides. Elle évite de marcher dans Paris de peur de croiser l'une de ses affiches et de reconnaître le prénom de sa petite sœur au détour d'une rue. Guylaine, 34 ans, brûlée vive par son mec.
Ma sœur avait rencontré son compagnon en 2007, en discothèque. Donc, ils sont tombés amoureux, comme tout jeune couple, et puis ils ont très vite habité ensemble. Après, elle nous l'a présenté. Moi, J'ai trouvé quelqu'un de normal, enfin, on a rigolé ensemble, tout ça. C'était quelqu'un qui était très intégré dans notre famille. Ils ont eu une petite fille donc en 2010. Ce monsieur était tellement bien dans notre famille qu'il est devenu le parrain de mon fils aîné. Et moi, j'ai jamais rien remarqué de bizarre chez lui. C'était vraiment quelqu'un de tout à fait normal. Après, quand il a appris que ma sœur voulait le quitter, il a fait beaucoup de chantage au suicide. Il m'en a même fait part à moi et à mon compagnon. On a essayé vraiment de le réconforter en lui expliquant que c'était pas la fin de sa vie. Enfin, il a 40 ans, que maintenant, des familles recomposées, il y en a plein. Moi, j'en suis l'exemple parfait. Après, bien sûr, il m'a jamais fait de menaces vis-à-vis de ma sœur. Alors, elle nous a envoyé des petits signaux en nous disant que il surveillait ce qu'elle mangeait, il lui dictait la façon de faire le ménage. Il y avait mais c'était des petits signaux. Et ma sœur, c'est la dernière d'une fratrie de quatre. Et du coup, elle a toujours été élevée un peu comme la petite dernière. Elle a toujours ce petit côté un peu princesse, un peu jamais satisfaite. Et du coup, quand nous, elle nous disait ça, on pensait qu'elle exagérait. La semaine précédente, elle est allée voir sa meilleure amie et elle lui a donné un autre numéro de téléphone en lui disant « Si jamais t'arrives pas à me joindre, tu m'appelles sur cet autre numéro. » C'était le numéro de son nouveau compagnon qu'elle avait rencontré. Après, je pense que le soir où il l'a tuée, elle a voulu partir. Enfin, je sais que ce soir-là, elle a voulu partir parce que quand je suis rentrée dans son appartement, une fois laissé les lever, il y a ses habits qui sont sur son lit, en pile, comme quelqu'un qui prépare sa valise. Et puis sa petite fille, elle l'a dit aussi, que sa maman voulait partir. Et il ne l'a pas laissé partir. Il est allé la chercher déjà à son travail, ils sont rentrés, ils se sont disputés. Ensuite, il l'a violemment frappée. Et il est allé chercher une bouteille d'eau qui était remplie d'essence. Et il lui a déversé dessus et il a mis le feu sur elle, devant leur petite fille. Et ma sœur a été hospitalisée et elle est décédée 2 jours plus tard, parce qu'elle était brûlée à 92%. Donc c'est pas du tout un pétage de plomb. Il n'a pas pris une arme de circonstance. C'est-à-dire que quand quelqu'un pète un plomb, il prend une arme de circonstance. C'est-à-dire qu'il va attraper un couteau, il va poignarder, il va attraper une cordelette, il va étrangler. Une arme de circonstance, lui, c'est pas ce qu'il a fait. Il avait bien prévu son coup, donc il n'a pas pété les plombs. Et puis, de toute façon, c'est pas la défense qui met en avant. Hein. Il dit pas du tout qu'il a pété les plombs. Hein. C'est pas du tout. Il dit pas du tout. Alors, on a eu 4 versions. Donc, on a eu la version que c'était un accident. On a eu une version comme quoi il avait voulu se suicider. On a eu une autre version où c'était ma sœur qui avait voulu se suicider. Mais il est quand même allé jusque là. Et puis aujourd'hui, la dernière version, c'est quand même celle que je préfère, c'est qu'il ne se rappelle plus de rien. Parce qu'au moins, il n'incrimine pas ma sœur. Et voilà, il dit que les grands brûlés reviennent de l'enfer et que voilà, et qu'il ne se rappelle plus de rien. Après, je pense que les jours de son procès, il faudra qu'il s'explique sur certaines questions à lui poser.
Chaque année en France, 219 000 femmes sont victimes des coups de leur conjoint. Heureusement, toutes ne meurent pas. Certaines s'en sortent.
Mes parents n'étaient pas là. Et on s'est engueulé, il s'est énervé sur un truc. Et là, il m'a poussée et je suis tombée par terre. C'était le premier acte de violence physique claire.
Louise est l'une de ses survivantes.
Et ensuite, ça s'est calmé pendant un moment. Et ça ne paraît pas très logique, mais j'ai emménagé avec lui chez ses parents.
C'était Des hommes violents, quatrième épisode, Kader sort du silence, un podcast et une série de Mathieu Palin réalisée par Cécile Lafont. Aurélie Marcès, l'attachée de production, Sarah Djeriwi, c'est notre stagiaire, des infos, des crédits, références, biblio, c'est sur le site de France Culture à la page des Pieds sur Terre et en particulier à celle des hommes violents. Vous pouvez télécharger la totalité de ces épisodes sur toutes les bonnes applis, sur le site de France Culture et surtout sur l'appli de Radio France qui est évidemment la meilleure. N'oubliez pas de mettre des petites étoiles et des commentaires si ça vous a plu.